Vous écoutez, on lit pour vous.
Ruralité et politique, les programmes sont surtout conçus pour les villes? Un texte d'Inès Lombardo, paru le 4 avril 2025 dans l'Express.ca. Depuis 60 ans, les petites municipalités canadiennes peinent à obtenir des programmes adaptés à leur réalité, affirme l'ex-député libéral René Arsenault. Entre exode rural, aides gouvernementales inadaptées et poids politique en recul, le fossé avec les grandes villes ne cesse de se creuser, selon lui. Le phénomène est directement relié, selon René Arsenault, au fait que les programmes provinciaux et ceux du gouvernement fédéral sont souvent conçus pour favoriser le développement urbain. Plus difficile d'obtenir des programmes d'aide en milieu rural. René Arsenault était député d'une circonscription rurale, celle de Madawaska-Restigouche, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, lors du déclenchement de l'élection fédérale. Après 10 ans à représenter cette région sous les 3 gouvernements de Justin Trudeau, élu en 2015, 2019 et 2021, l'Acadien assure qu'il est bien plus difficile d'obtenir des programmes de services ou d'aide en région rurale qu'en milieu urbain. Lorsqu'une petite municipalité de 3000 habitants veut faire une demande d'aide pour du logement abordable, comme le ferait Toronto, Montréal, Vancouver ou Moncton, celle-ci ne répond pas aux critères, affirme-t-il. René Arsenault observe qu'il faut attendre que les ministères viennent faire des petites modifications. Si bien qu'on a perdu du temps, il est trop tard et il ne reste plus de fonds. C'est souvent trop souvent comme ça. Il explique que l'exode rural vers les villes embourbe ces dernières depuis les années 1960, ce qui conduit à la multiplication des programmes politiques et des infrastructures, plus le choix de répondre à ce surplus dans les régions urbaines. C'est là que les villes deviennent plus avantageuses. Il y a plus d'infrastructures, du transport en commun, du logement. Un point de vue à nuancer, un point de vue largement nuancé par le professeur émérite à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, François Rocher. Le clivage rural-urbain est de moins en moins vrai aujourd'hui dans la mesure où on parle de zones périurbaines qui comprennent des gens qui ne sont pas si loin d'un centre urbain, mais qui ne sont pas non plus dans de très petites communes. C'est plus complexe que juste une différence entre le rural et l'urbain, analyse-t-il. Pour lui, les très grandes villes au Canada ne sont pas si nombreuses, et certains enjeux traversent tous les territoires, comme l'inflation, par exemple. Le professeur concède toutefois des différences dans les activités liées au territoire. Il donne l'exemple de l'extraction des ressources naturelles, que l'on trouve surtout dans les régions plus en périphérie et qui lie ce type d'activité aux intérêts immédiats des électeurs. S'ils travaillent dans ces domaines, évidemment, ils vont accorder plus d'importance à ce que les partis politiques vont favoriser sur leurs activités ou non. Donc, il y a une diversité sociale qui fait en sorte que les choix politiques ne sont pas les mêmes. Plus de territoires, moins de députés ruraux. En plus de la différence d'aide entre les régions urbaines et rurales, René Arsenault déplore le fait que l'exode qui touche les petites communautés canadiennes débouche sur des territoires de circonscriptions agrandies. En effet, selon la loi électorale du Canada, les circonscriptions fédérales doivent en général représenter un nombre minimum de personnes pour mieux représenter la croissance de la population, notamment. La carte électorale fédérale est mise à jour tous les 10 ans pour refléter la variation de la population. Par exemple, en Ontario, le redécoupage de 2023 a mené à une circonscription de moins dans le nord de l'Ontario et une de plus dans la région de Toronto. Les circonscriptions sont réexaminées tous les 10 ans. Dans sa version datant de 2009, la procédure de la Chambre des communes du Canada reconnaît, étant donné que les problèmes d'accessibilité, de transport et de communication constituent souvent des obstacles à une représentation efficace et au démarchage électoral, les commissions font généralement en sorte qu'il y ait moins d'électeurs dans les circonscriptions rurales que dans les circonscriptions urbaines. Statistique Canada rappelle de son côté que si 30 nouveaux sièges ont dû être créés après le recensement de 2011, aucun n'a été ajouté après le plus récent, en 2021. Toutefois, la taille moyenne de la population d'une circonscription au sein des provinces passera de 116 116 habitants à 121 891, pour refléter l'accroissement de la population au cours de la décennie, peut-on lire sur le site de l'agence. Nos territoires ruraux s'agrandissent. Ils sont immenses. D'ailleurs, pour l'élection qui s'en vient fin avril, mon territoire s'agrandit davantage pour le candidat qui me remplace. C'est une mission impossible de voir tout le monde, d'être partout, remarque le député sortant. Selon ses observations, de moins en moins de ministres et de députés sont issus des régions rurales, contrairement à ceux provenant des milieux urbains. Et les voix de ministres pèsent parfois plus lourd en fonction de la problématique mise sur la table. Pour les grandes villes, René Arsenault affirme qu'il faut créer des circonscriptions à l'intérieur même des villes. L'ancien élu n'impute pas le déséquilibre entre les régions rurales et les villes à un gouvernement libéral ou conservateur en particulier, mais à ceux qui se sont succédés depuis les années 1960. Deux poids, deux mesures. René Arsenault utilise l'accès au signal cellulaire en ville et région pour illustrer le déséquilibre dont il a été témoin. J'ai assisté à un décès dans un centre communautaire. On était incapable d'appeler le 911. Il n'y avait pas de réseau cellulaire. Je comprends que ce n'est pas un problème 100% du gouvernement. Ce sont les fournisseurs de services qui sont un peu réticents à venir où il y a peu de population. Je comprends ça. Mais ça vous donne une image. Et l'Acadien de poursuivre... On a la téléphonie cellulaire à l'intérieur du métro de Toronto, alors qu'en région rurale, dans le Canada, on n'est pas capable d'appeler le 911 dans une situation d'urgence parce qu'il n'y a pas de signal. Pour lui, la solution réside dans l'équilibre économique de l'offre et la demande. Quand on déborde de monde à Vancouver ou à Toronto et que les loyers commencent à friser les 2 500, 3 000 par mois, il y a très peu de logements, beaucoup de demandes. Si on laissait les règles économiques naturelles régler le prix, automatiquement, il y a des gens qui quitteraient le centre-ville à 20-30 minutes. Ça créerait des régions suburbaines qui créeraient leur propre économie. C'était « Ruralité et politique, les programmes sont surtout conçus pour les villes », un texte d'Inès Lombardo paru le 4 avril 2025 dans l'Express.ca.
Tarifs douaniers. L'île du Prince-Édouard en zone de turbulence. Un texte de Marine Ernoult paru le 12 mars 2025 dans La Voix acadienne. La guerre commerciale avec les États-Unis n'en finit pas de faire des montagnes russes. 2 jours après avoir imposé des droits de douane, le président Trump est revenu sur sa décision. La province préfère se préparer au pire et organise la riposte. Pêcheurs, agriculteurs, mais aussi entreprises de l'aérospatiale tentent de diversifier leurs exportations. Deux jours après avoir imposé des tarifs douaniers de 25 % aux produits canadiens franchissant la frontière, Donald Trump a annoncé jeudi le 6 mars une suspension partielle de ses sanctions jusqu'au 2 avril. Les marchandises concernées par la pause sont celles qui sont régies par l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM, soit 38 % des exportations. La pause s'applique à presque tout, ce qui nous arrange. Cela pourrait nous permettre de faire passer la frontière à certaines marchandises pendant que nous en avons encore la possibilité, affirme l'économiste à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, James Santens. L'économiste en chef au Conseil économique des provinces de l'Atlantique, Lana Assaf, estime néanmoins que l'incertitude actuelle crée un environnement économique difficile. Ce manque de stabilité sape la confiance et décourage les investissements. La capacité des entreprises à planifier est entravée. Elles peuvent être amenées à suspendre leurs plans stratégiques et opérationnels, poursuit-elle. Risque de récession. Pour l'instant, le homard fait partie des marchandises exemptées. Le président de Lobster Fishers of PEI Marketing Board, Charlie McGeoghegan, se dit soulagé, mais reste inquiet. Notre secteur est extrêmement préoccupé. Si ça arrive, l'effet sera énorme pour l'île du Prince-Édouard, car environ 60 % du homard que nous pêchons est exporté vers les États-Unis, rapporte-t-il. À l'inverse, quelque 40 % des prises américaines sont envoyées au Canada Atlantique pour y être transformées pendant l'hiver lorsque les zones de pêche canadiennes ne sont pas exploitées, explique le pêcheur. Les homards peuvent traverser plusieurs fois la frontière entre le Canada et les États-Unis. L'arrivée des tarifs douaniers gripperait ainsi un fonctionnement bien huilé et augmenterait les coûts de production, ajoute-t-il. L'industrie des fruits de mer ne serait pas le seul secteur durement touché. Selon le Conseil économique des provinces de l'Atlantique, plus de 73 % des exportations provinciales étaient destinées aux États-Unis l'an dernier, ce qui a contribué à environ 11 % du produit intérieur brut de la province. En 2024, l'île a notamment envoyé pour 900 millions de dollars de produits agricoles à son voisin du Sud. Les deux marchés sont très interconnectés. Par conséquent, si les droits de douane entrent en vigueur, l'île du Prince-Édouard n'est pas à l'abri d'une récession, observe Lana Assaf. Des années pour développer de nouveaux marchés. Lana Assaf évoque notamment le secteur de l'aérospatiale, dont 58 % des exportations sont destinées aux États-Unis. Cette industrie est particulièrement menacée à l'île, car les contrats sont négociés à très long terme. Il est donc beaucoup plus difficile de détourner les ventes vers d'autres pays. Tous les acteurs économiques insulaires cherchent désormais à diversifier la provenance de leurs clients. Le Lobster Fishers of PEI Marketing Board s'attelle depuis 4 ans déjà à trouver de nouveaux marchés. Selon Charlie McGeoghegan, la Chine, par la taille de sa population et son nombre important de millionnaires, un potentiel énorme pour les homards du golfe du Saint-Laurent. Des pays comme Dubaï ou le Koweït représentent aussi de belles opportunités. Ce ne sera certainement pas facile. Il faut des années et beaucoup de travail pour développer de nouveaux marchés, trouver des partenaires locaux efficaces et dignes de confiance, prévient Lana Assaf. Cela nécessite des coûts initiaux considérables. L'économiste évoque des contextes juridiques, commerciaux et culturels différents d'un pays à l'autre, le besoin d'adapter les produits et les services aux réglementations locales. Pour soutenir les entreprises dans cette tâche, le gouvernement provincial a décidé de doubler le nombre de missions commerciales organisées par Innovation IPE au Canada, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Mexique ou encore dans les Caraïbes. Une aide sera par ailleurs offerte aux compagnies exportatrices qui veulent y participer. Plus de compétitivité et de productivité. Un nouveau fonds d'amélioration et de diversification des exportations a également été lancé, de même que des prêts de secours. Lana Assaf estime que ce plan de réponse du cabinet de Rob Lands constitue une bonne première étape. Elle parle d'un appui ciblé qui permettra de combler les écarts de revenus et de retenir les employés. Le soutien qu'ils peuvent apporter demeure limité. À moins qu'Ottawa ne participe à l'effort, la province ne dispose que d'une quantité limitée d'argent. Nuance, James Sentence. Si les droits de douane se concrétisent et se maintiennent à un niveau élevé, Lana Assaf insiste sur le besoin d'adopter des mesures pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises insulaires, tout en misant sur le développement de nouvelles compétences chez les travailleurs. Les experts s'interrogent désormais sur la tournure que prendront les événements dans les semaines et mois à venir. Le problème avec le président Trump, c'est qu'on ne sait jamais. Ses actions ne sont pas entièrement rationnelles. Les choses peuvent changer très rapidement, analyse James Sentence. Mais j'espère qu'il y aura suffisamment d'Américains qui se plaignent pour qu'il abandonne définitivement son idée. C'était Tarif douanier, l'île du Prince-Édouard en zone de turbulence. Un texte de Marine Ernoult, paru le 12 mars 2025 dans La Voix acadienne.
Déjà 20 ans de métier pour Tom Elliott Gérard. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue. À 5 ans, Tom Elliott Gérard montait sur scène à la Place des Arts aux côtés de son père, le chanteur Michael Gérard. Depuis, on l'a vu jouer dans plusieurs séries, Les Bracelets Rouges, Indéfendable, Pour toujours plus un jour. Il a participé à La Voix et à Big Brother Célébrité. Il anime le Happening Jeunesse Mammouth. Et il tient l'un des rôles principaux dans la fabuleuse web-série T-Rex, Télé-Québec, qui vient d'être présentée en compétition au prestigieux festival Sérimania en France. Cet hiver, tu as participé à Big Brother Célébrité. Que retiens-tu de l'aventure? J'ai vraiment aimé ça. Je carbure aux expériences et aux émotions fortes. J'ai commencé le métier si jeune que je suis toujours en train de chercher ce à quoi je n'ai pas encore touché. Comme je n'avais jamais fait un jeu télévisé, je me suis lancé. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi. Ça m'a frappé de réaliser que j'étais encore plus fragile que je le pensais. je me questionne encore pour savoir pourquoi certaines choses m'ont atteint. En même temps, je me suis trouvé bon et fort dans certains aspects. Craignais-tu la vie en communauté? Je me demandais si ça allait devenir trop envahissant et si j'allais avoir besoin de ma bulle, mais j'ai été capable de mettre mes limites. Je me suis surpris à mieux connecter avec les gens que je pensais. Dans la vie, j'ai toujours peur d'être celui qui réussit moins à créer des liens. Ça me stressait, parce que c'est tellement important dans ce jeu de nouer des liens dès les premières secondes. Tu chantes, tu joues, tu animes, tu danses, tu maîtrises plusieurs instruments. Comment te définis-tu professionnellement? C'est ma quête éternelle, mais ça me convient. Si je me défais d'un aspect, je deviens malheureux rapidement. Cette polyvalence m'a fait grandir dans les dernières années, tant humainement que dans ma carrière. J'ai rencontré tellement de défis imprévus que ça me nourrit beaucoup. Par contre, j'ai hâte de voir ce qui va devenir une priorité un jour. Je crois que c'est inévitable. Je pense beaucoup à la musique. Ça prend du temps. J'aimerais ça m'asseoir, écrire et aller en studio. Généralement, c'est moins compatible avec un horaire très chargé par des tournages. Tes parents évoluent dans les arts. Ton frère, Sam Éloi aussi. De quelle façon ça t'a influencé? Je me suis fait prendre dans ce grand tourbillon très jeune et j'en fais encore partie. J'ai commencé la scène à 5 ans parce que mon père était dans le show. J'étais en coulisses et je connaissais déjà le show par cœur. Quand je suis monté sur scène à la Place des Arts, j'ai tout de suite su que je voulais faire ça de ma vie. Ensuite, la télé est arrivée autrement, car mes parents ne sont pas comédiens. Ma mère et mon père ont toujours été clairs. Si on voulait travailler en télé, on devait le faire pour nous et parce qu'on aimait ça. Mais on devait aussi être reconnaissant, parce que plusieurs personnes voudraient être à notre place. On a compris vite qu'on ne devait rien tenir pour acquis. Je leur en dois beaucoup. Ils ont toujours été un soutien incroyable. Était-ce plus facile de savoir quel chemin prendre? Ça nous a donné confiance de connaître les chemins pour accéder au métier, mais ça nous a aussi éveillés sur les bas de l'industrie, en voyant mon père connaître des périodes difficiles. L'instabilité du métier, spécialement avec les difficultés actuelles du monde de la culture, ce n'est pas très encourageant. À 12 ans, je me disais déjà que ce ne serait pas facile. Je savais que j'allais devoir m'atteler et m'assurer d'avoir un coffre à outils plein. C'est pour ça que j'ai le besoin viscéral de continuer à évoluer. Il y a 10 ans, votre famille est allée vivre 3 mois en Inde. À quel point ça t'a transformé? Je suis allé à la rencontre de moi-même. J'avais 15 ans au début du voyage. Je n'étais pas bien avec moi-même. Je n'avais pas encore fait mon coming out, alors que ça faisait longtemps que je le savais. Durant ce voyage, j'ai compris que ça n'avait plus de bon sens. Il fallait que je le dise. Je sentais que quelque chose allait se casser et que je vivrais un nouveau départ ensuite. Comment était le retour? Très compliqué. Je me demandais ce que je faisais ici. Je trouvais que je ne servais à rien, alors que j'étais seulement en 5e secondaire. Ça a activé une petite crise identitaire qui m'a permis d'être mieux avec moi-même. En parallèle, je me suis aussi demandé ce que je désirais faire comme travail. Je voulais devenir médecin après avoir aidé des jeunes là-bas. J'avais tellement besoin d'être utile. Ça m'a ouvert sur une réalité qui n'est pas la mienne. Je me questionne encore aujourd'hui sur comment je peux rendre mon métier utile. C'est pour ça que je travaille autant en jeunesse. Tu sembles avoir grandi dans une famille loin des traditions, des petites cases, de la masculinité toxique et de l'homophobie. On n'a jamais vraiment aimé les cases et la structure. C'est pour ça que mon frère et moi pouvons évoluer autant. Nos parents ont toujours eu une grande ouverture. Encore aujourd'hui, on parle ensemble. On repousse beaucoup de limites en tant que famille. Mes parents défont souvent le moule de ce à quoi les parents devraient ressembler. J'aime ça. Je trouve ça précieux. On peut te voir dans T-Rex sur le site web de Télé-Québec. Comment décris-tu la série? C'est un miroir sur une réalité omniprésente dans nos écoles et nos entourages, surtout chez les jeunes. Ce jeu de virilité où les gars veulent toujours essayer d'être celui qui va gagner dans son environnement, qui va prouver qu'il a sa place plus qu'un autre, souvent en écrasant les autres. Édouard, Xavier et Renaud arrivent à un point de leur vie où ils pensent être soudés, avant de réaliser que leur dynamique est super toxique. D'ailleurs, ils ne nomment jamais leurs problèmes, sauf par l'humour. Exact. Ils ne sont pas capables de parler des choses telles qu'elles sont, sauf en joke. À force de faire des blagues, ça finit par toucher au bon piton et ça explose. Ils s'aiment pour vrai, mais ils ne se comprennent plus parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et de se dire qui ils sont. Durant leur séjour au chalet, le rideau tombe. Je ne pense pas que la série porte sur la masculinité toxique ou positive. Il n'y a pas de morale ni de réponse. On montre ce qui se passe dans certains groupes d'amis. À quoi ressemble ton personnage, Xavier? Il vit énormément d'homophobie intériorisée. Il a besoin d'appartenir et d'être aussi viril que les autres gars pour se prouver, en raison de son orientation sexuelle. Ça l'insécurise tellement. On est plusieurs à se poser ces questions-là, moi y compris. Si j'étais plus viril, est-ce que ça m'aiderait? C'est ancré profondément dans nos têtes. Plusieurs comédiens hésitent à assumer leur queerness publiquement. Quelle était ta réflexion à ce sujet? J'ai longtemps eu peur d'en parler, car je craignais que ça me nuise. Si je n'avais pas la chanson et ma diversité d'intérêts, je souhaite que j'aurais été capable d'en parler quand même. Mais il y a une crainte chez les acteurs. J'ai fini par le nommer, car certains projets m'ont permis de faire la paix avec ça. Quand je travaille dans Mammouth, je n'ai pas le choix d'être moi-même. Je ne peux pas évoluer dans un projet jeunesse qui célèbre la diversité et l'authenticité sans l'être. Cela dit, je n'ai jamais voulu le crier sur tous les toits et je n'ai jamais fait de coming out. J'en ai parlé à mon entourage, ça s'est su et je suis arrivé à mon bal du secondaire avec mon chum. J'étais en mode « acceptez-le et j'en ai rien à chier si ça vous dérange ». Je n'ai pas à vous l'annoncer ni à avoir de conversation avec tout le monde. C'est encore un peu ça aujourd'hui. Je suis moi-même, mais je ne ressens pas le besoin de l'afficher haut et fort. Ça n'a jamais fait partie intégrante de mon identité, mais je suis très fier de qui je suis aujourd'hui. C'était « Déjà 20 ans de métier pour Tom Elliott Girard », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue.